Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le 102.2. On est en direct depuis le studio de Carpentras-Serre pour votre émission de sport hebdomadaire à TV Sport. Et je suis avec Valérie parce que Alexandre, il est malade. Salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde et un gros bisou à Alexandre. On lui souhaite un prompt rétablissement.
Alors je sais qu'il nous écoute, alors Alexandre, voilà. Tu nous entends, une bonne bouillotte ce soir, un grog et ça ira mieux demain. Et aujourd'hui, on va parler d'une entité qu'on ne connaît pas forcément bien, mais l'an dernier, on a beaucoup parlé justement de tous les événements qui tournent autour de ça. C'est l'olympisme. Avec, donc aujourd'hui, on va parler du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse. Et pour en parler, je suis avec Roland Davot. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
Donc au niveau du GDOS, hein, c'est le mot qu'on appelle le GDOS 84, tu es administrateur.
Oui, depuis 3 mandats maintenant.
3 mandats. Et on aura justement une petite nouvelle à annoncer au milieu de l'émission. On en reparlera tout à l'heure. Justement parce que les élections ont lieu cette année en 2017.
Absolument, l'olympisme, on est calé sur les Jeux Olympiques d'été, donc on est sur des mandats de 4 ans. Donc l'Assemblée Générale qui suit les Jeux Olympiques d'été, donc la prochaine, là, le 4 mars 2017, sera élective.
Voilà, et on verra qui sera le champion olympique du DOS 84. Hein, hein Valérie?
Oui, oui, moi j'ai une petite idée, mais bon.
Bon, avant de parler justement de l'olympisme, parlons un petit peu des résultats locaux.
J'en ai quelques-uns, donc je vais commencer comme souvent par le handball mazanais. Donc chez les moins de 16 ans méditerranéens, donc Mazan recevait l'USAM Nîmes et malheureusement s'est incliné 27-30. Dommage, c'était un très 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 bon match, une bonne combativité de la part des mazanaises. En moins de 16 ans, équipe 2, Mazan s'est imposé à Manosque sur le score sans appel de 27-11. Et c'est tout pour aujourd'hui pour le club de handball de Mazan. En basket avec l'ABC Carpentras, le U11 garçon, donc recevait l'USAP. Et malheureusement, ils se sont inclinés 15-33. En U13, fille, Carpentras se déplaçait à Robion. Et là, ben aussi, Carpentras s'est incliné 18-40. En U15, garçon, Carpentras recevait l'Isle-sur-la-Sorgue. Et là aussi encore, Carpentras a perdu 47-50. En U13, garçon. Basket, l'ABC Carpentras, pardon, se déplaçait au tort. Et là, Carpentras, cette fois-ci, a gagné 47-30.
Ils n'ont pas eu tort d'y aller.
Non, ils n'ont pas eu tort.
Ah, elle est bonne, celle-là.
Elle est bonne. En U15, fille. Donc, l'ABC Carpentras se déplaçait donc à Avignon. 27-76 pour Carpentras. Là, un score sans appel. En senior région fille, les filles donc de Carpentras se déplaçaient à Marseille. Et elles ont gagné in extremis 58-53. Et enfin, en senior région garçon, donc Carpentras se déplaçait à Martigues. Et là, malheureusement, Carpentras s'est incliné 50-61. Maintenant, je vais passer en athlétisme à Carpentras. Donc, l'Union athlétique Carpentras se déplaçait pour le quart final du championnat de province de cross-country. Dimanche dernier, au Ponté. Il y avait quand même 40 athlètes hein, de Carpentras, c'est pas mal.
Ah, c'est bien.
Hein, oui, ils se sont bien déplacés.
Et alors,
ils ont remporté 3 podiums. Par rapport à la fois dernière où on avait vu, la semaine dernière, ils avaient remporté 10 podiums.
Bah oui.
Cette fois-ci, ils en ont remporté 3. Bon, c'est quand même.
Non, c'est déjà bien.
Voilà, c'est quand même un championnat de Provence, hein, c'est pas n'importe quoi. Et c'est le cadet Romain Legendre, donc de Carpentras, qui a remporté 7 épreuves, donc avec brio, faisant preuve d'une grande maîtrise. Lui, il a remporté l'épreuve en cadet.
Bravo
à Romain Legendre. Chez les cadettes, eh ben c'est Manon Fournier pour sa première année dans cette catégorie hein, qui a terminé une très belle 3e place. Ensuite, il y a eu l'équipe de juniors hommes. Elle a obtenu une très belle 2e place avec Corentin, on va donner les noms quand même. Corentin Favier, 15e. Zamoui Adbi, pardon, hein, Alim, 20e. Léo Bertrand, 24e. Et Clément Forgereux, là c'est très facile, 25e. En minime, eh ben, c'est Gabin Cross, lui qui échoue malheureusement au pied du podium. Donc à la 4e place, la plus mauvaise, c'est quand même bien. Et pour les seniors filles, c'est Émilie Migieux qui a terminé sixième. Donc voilà.
Après, c'est pas catastrophique, hein.
Non,
sixième, c'est
quand
pas
même
mal.
Mais non, mais c'est bien quand même.
Ouais, hein. Ouais, franchement, c'est
et
bien.
L'équipe senior féminine, elle, elle a terminé à la cinquième place. Senior masculine, pardon. Mais j'ai dit féminine, non, c'est l'équipe senior masculine. Avec El Ouazizi Ouadif, qu'on connaît bien, hein, dixième. El Ouassini Ibrahim, 17e. Meyer Frédéric, 51e. Et Jolie Tom, 73e. Hmm. C'est pas mal. Ouais. Il y a quand même eu de très, très, très bons résultats. Ils disent trois podiums, c'est sûr, mais ils sont pas loin quand même des autres podiums. Hein.
Donc, c'est, voilà. Sauf celui qui est 73e. Il est un peu loin, là.
Oui, mais après, c'était un sport par équipe. Donc,
ah oui.
Terminer 5e à la 5e place, c'est-à-dire qu'il fait un peu de progrès, ils peuvent terminer à la 3e place facilement, quoi. C'est pas mal.
Ouais.
Voilà. Donc, la semaine, je disais, dans 15 jours, les athlètes donc, de Carpentras vont se déplacer pour les demi-finales du championnat de France, donc à Roquebaron.
C'est où ça, tu sais pas ?
J'ai pas fait attention, honnêtement, j'ai pas regardé.
T'as pas regardé ?
Non, mais je vais regarder tout à l'heure, je te le donnerai.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'on leur souhaite bonne chance. Hein,
Oui, c'est pas
c'est
mal.
C'est un sacré événement hein, qui va. Mmh. Donc on leur souhaite plus de podiums.
Oui, bah
mais
oui.
Au moins des podiums en tout cas.
Oui. Déjà, on en a un qui est un petit champion quand même, hein, le cadet Romain Legendre.
Donc, oui, on l'avait reçu à l'émission.
Non, non, il est bon. D'ailleurs, il espérait finir quand même dans les trois premiers, mais il a fini carrément premier.
Bah oui.
C'est pas mal.
On pourra le rééviter.
Voilà. Après, j'ai en rugby à 13, la coupe Lord de Derby en huitième de finale. Ben, Avignon, malheureusement, a cédé, je veux dire, contre Carcassonne, 34 à 14. Carpentras recevait Saint-Gaudens, 14 à 30. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Hein. Bon, Saint-Gaudens, c'est une équipe en élite 1.
Oui, donc, bon, ils se connaissent, hein, mais oui. C'est vrai qu'on en avait discuté la semaine dernière avec le capitaine de l'équipe première. C'était un événement difficile. Hein.
Tout à fait. Puis là, je vais passer quand même juste un petit résultat national au niveau handball. C'est pas national, c'est mondial. Ben, c'est le mondial 2017 de handball.
Bah, oui.
Avec la France hein, qui s'est imposée.
C'était samedi, ça.
Oui, face à l'Islande. C'est tout à fait ça. Hein. 31 à 25. Continue donc je sais pas comment on peut dire, à être excellent. Hein. Actuellement, ils sont excellents. Et ils rencontreront en quart de finale demain à 19h. À 19h.
C'est 19h.
Oui. La Suède, vainqueur de la Biélorussie, ça y est, je vais dire. Russie, 41 à 22.
Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir maintenant les voir sur les chaînes publiques.
Oui, bon. Sur TF1,
voilà. Mais sur une chaîne gratuite pour nous, parce que c'est vrai que tous les autres matchs, malheureusement, on n'a pas pu forcément profiter.
C'est bien dommage, tu avais poussé ton coup de gueule.
Bah oui, l'équipe de France de football, on les voit du début jusqu'à la fin tout sur des chaînes gratuites. Et le hand, alors que ce sont quand même les meilleurs, la
les
meilleure
Français,
nation.
Les Français, c'est quand même 5 fois champion du monde.
Bah oui. À mon avis, 6 fois, parce que là, ils sont bien partis, en tout cas.
Oui, mais bon, il ne faut pas quand même sous-estimer les autres équipes, hein, parce que là, les autres quarts de finale donc, qui auront lieu demain, c'est quand même Norvège-Hongrie, hein, qui se déroulera le match à Albertville. Slovénie-Qatar à Paris. Et l'Espagne contre la Croatie à Montpellier. Donc bon, quand même, il y a de bonnes équipes. Hein.
Tu t'intéresses un peu au hand, Roland ?
Oui, j'étais à Montpellier samedi. Il y avait un quart de finale Brésil-Espagne.
Huitième de finale.
C'était magnifique.
Huitième de finale.
Huitième de finale, pardon. Oui, c'est. Alors, c'est vrai qu'aussi, à titre professionnel, on a pris un abonnement à beIN Sport pour pouvoir faire des retransmissions sur Carpentras aux côtés du club de hand.
Ah, ça,
mais c'est
bien,
vrai
ça.
Qu'il fallait passer par beIN.
Oui, c'est ça.
C'est 15€ pour le mois.
C'est ça. Et je trouve dommage parce que c'est vrai que pour les autres disciplines comme le football, comme le rugby, bah on peut assister à l'intégralité du championnat sur une chaîne non payante. Après, tant mieux pour beIN Sport, mais je pense que le lobbying, ça va à un moment, il y a l'intérêt du sport, c'est l'image de la France, l'équipe de hand est invaincue, elle est 5 fois championne du monde. Bon, je peux repasser mon coup de gueule, je l'ai fait la semaine dernière, mais bon, voilà. Donc je suis content, demain c'est sur la une. Roland ?
Oui, moi ce que je regrette aussi, c'est que le fait qu'on soit privé des matchs de la France, ça nuit à l'émulation populaire autour de notre équipe de France. C'est que ça reste vraiment qu'une histoire de passionnés du hand, alors que sur les autres sports majeurs, ben, on a la possibilité vraiment qu'il y ait un engouement populaire et j'espère que maintenant avec les quarts de finale... on va avoir cet engouement populaire sur tout le territoire national pour pouvoir vibrer avec notre équipe de France.
D'autant plus que c'est en France, en plus, le mondial.
Tout à fait, tout à fait.
C'est pas tout le temps que c'est en France.
Non, non, mais...
Bon, en tout cas, ils ont gagné. Bon,
ils vont quand même affronter quand même, bon, la Suède. Hein, ils ont des adversaires là sérieux. Hein. Ils ont sérieux. Et puis aussi à noter quand même. Oui, on va y croire. Mais non, mais ils ont déjà battu hein, la Suède. Il n'y a pas de raison qu'ils ne la battent pas. Mais il y a quand même eu aussi un fait exceptionnel, c'est que le Danemark, qui était champion olympique, a perdu contre la Hongrie. Hein. Donc, et la Hongrie, c'est quand même pas parmi les meilleures nations au niveau handball. Hein.
Donc tout normal. Est faisable. Hein.
Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas quand même vendre la peau de l'ours. Hein. Avant de l'avoir abattu, on va lire. Non, il faut qu'il fasse très attention parce qu'il y a de sérieux, sérieux joueurs en Suède.
Ouais. Voilà.
Maintenant, je vais passer au foot.
Allez.
Bon, je ne ferai pas aussi bien que mon ami Alexandre. Hein, donc, voilà, parce que lui, il connaît tous les joueurs. Moi, non. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, il y avait quelques matchs. Quelques matchs, donc je vais donner les résultats. Bastia, Nice, 1 partout. Nantes, Paris Saint-Germain, 0-2. Guingamp, Rennes, 1 partout. Bordeaux, Toulouse, 1-0. Dijon, Lille, 0 partout. Et Metz, Montpellier, 2-0. Dimanche, il y avait Monaco qui jouait, qui a mis une volée à Lorient, 4-0. Saint-Étienne, Angers, 2-1. Et là aussi, une chose qui m'a fait plaisir, Lyon-Marseille, 3-1. Marseille s'est pris une belle dérouillée.
Ouah, t'es méchante, hein, parce que franchement, ils font le maximum pour remonter l'OM.
Oui, bon.
Allez l'OM.
Comme ça. Allez l'OM. On va être chauvin. Moi, je ne le suis pas. Je préfère Lyon. Hein, voilà. Bon, sinon, au classement général, bah, Monaco est repassé premier, hein, avec 48 points, suivi de Nice, du PSG qui est troisième, qui remonte tranquillement, hein, qui n'est qu'à 3 points du premier. L'Olympique lyonnais, lui, est quatrième, quand même à 11 points du premier, donc lui, je pense qu'il restera en quatrième place. Hein. Ensuite, il y a Guingamp, 31. L'Olympique de Marseille, 7e, avec 30 points. Bordeaux, 9e. En relégable, il y a Angers et Lorient.
Ouais. Voilà. Mais après, ce sont des équipes, ça ne nous étonne pas hein, que ces deux équipes soient relégables. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'Olympique de Marseille, vu son début de saison catastrophique, est quand même à la 7e place. Donc, ils sont en train de remonter.
Avec 30 points, c'est pas, je veux dire, il peut largement remonter à la quatrième place. Hein,
oui, mais au moins limiter les dégâts, parce que c'est vrai que le début de saison, je sais pas si Roland t'arrive à suivre un petit peu la Ligue 1, mais c'est vrai qu'au départ, c'était très très compliqué. Alors après, parce qu'on n'a pas forcément vraiment changé de joueur, c'est dommage qu'Alexandre ne soit pas là, parce qu'au début de la saison, bah, les résultats étaient catastrophiques. Maintenant, il y a eu le changement de président, et bah, Marseille a l'air de se maintenir, donc c'est pas mal. On en rediscutera, tiens, la semaine prochaine.
Oui, bah, mais il y a quand même... Bon, on va être... Je vais aller dans ton sens, faire un peu...
Merci.
Voilà, parler un peu chauvinement. L'Olympique Marseille est 7e avec 30 points, mais Saint-Étienne, qui est 6e, a 30 points aussi. Guingamp a 31 points. L'Olympique Lyonnais, bon, il est un peu plus haut, et je pense qu'il est quand même... Il domine quand même toutes les équipes qui sont en dessous, a 37 points, mais tu as quand même Bordeaux, 29 points, Toulouse, 26 points, donc... Ils se tiennent tous, hein, les dernières équipes. Là, tu parles de Nantes qui est 11e, à Saint-Étienne, même à Guingamp qui est 5e. Ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche. Hein. Donc, à mon avis, les 4 premiers resteront 4 premiers. Et après, ça peut bouger pour la 5e place. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer en Coupe d'Europe de rugby.
Oui.
Voilà. Avec Castres-Leicester 24 partout, Montpellier-Northampton 26-17, Clermont contre Exeter chef 48-26, l'Ulster.
T'as vu un peu le carton qu'ils ont mis Clermont.
Ils ont, oui, c'est vrai.
Que allez, Clermont. Là-bas.
Voilà. Ulster-Bordeaux-Bègles 22-26 pour Bordeaux-Bègles. Il y avait les Celts qui rencontraient les Scarlets 25-23, les Saracens qui ont battu Toulon 10-3.
Ouais, c'est une surprise.
Voilà.
Hein.
Oui, mais bon, Toulouse est quand même qualifié, j'ai vu. Donc, Leicester, après, contre Glasgow, 0-43. Là aussi, par contre, Glasgow, la dérouillée. Munster, Racing, 92, 22-10. Toulouse, Connac, 19-10. Et enfin, Zèbre contre les Waps, 27-41. Donc voilà. Bon, c'est pas aussi bien qu'Alexandre.
Non, voilà. Mais c'est pas mal.
Non, mais bon, Alexandre a tendance, c'est vrai, à, en plus à nous expliquer, puisque lui regarde énormément les matchs, chose que je ne fais pas, sauf quand ils sont éventuellement.
Ouais, mais le petit, il est malade, tu comprends.
Ah oui, c'est
il
bien.
Il est avec
dommage.
La bouillotte au lit.
Reviens vite, Alexandre, reviens vite, je t'en prie.
Bon. Voilà. Bah écoute, comme tu as bien parlé, on fait une petite pause musicale et puis après, on va faire les Jeux Olympiques, vous allez voir. À tout de suite. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him, there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life.
Obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Marin, the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry.
Bang, bang, bang. All right, then.
She got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc on est de retour dans le studio de RTVFM. On est bien sûr en direct sur le 102.2 avec Roland Davo, qu'on est ravi d'avoir avec nous. Ça va, Roland ?
Très bien.
Alors, on discutait un petit peu justement de hand. Et si la France est en finale, il y aurait éventuellement une rediffusion au gymnase.
Oui, une projection par le club de hand de Carpentras. Ils feront une ouverture au public dans leur gymnase.
D'accord. Voilà. D'accord. Bon, mais on vous tiendra au courant justement. Bien sûr. Bon, de toute façon, il y aura juste à suivre l'équipe de France, mais ça serait bien, comme ça, ça permettra de créer une petite émulation, une petite fête locale, et je pense que comme ça sera pour mettre en avant le hand, parce que le hand avec Mazan, quand même, il y a un bon niveau. Hein.
Oui, mais même Carpentras, l'entente Mazan-Carpentras et aussi l'équipe de Mazan-Carpentras est pas mal. Hein, donc, après, il faut voir, c'est vrai qu'on parle plus du club de Mazan que de Carpentras.
Bah, ils sont National 3 aussi, les femmes.
Voilà,
les
c'est ça, hein, voilà, c'est par rapport. Et puis bon, ils ont quand même les moins de 16 ans qui jouent, qui jouent très bien aussi. Et les moins de 18 ans aussi.
Ouais.
Il y a c'est vrai qu'il y a de très 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 bonnes équipes à Mazan.
Allez, on va parler un petit peu maintenant de l'olympisme. Avant de rentrer vraiment dans le détail, Roland, on entend beaucoup d'abréviations. Hein. C'est vrai que les sigles, etc., c'est vrai que je pense qu'en France, on aime bien ça. Donc, il y a le CDOS, hein, je viens de le dire, le Comité départemental olympique et sportif. Alors, par contre, il y a le CNOSF, il y a le CROSS, le CIO. Ça veut dire quoi tout ça ?
En fait, ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'olympisme, tout le monde connaît le CIO, le Comité international olympique, qui organise les Jeux olympiques. Mais il ne faut pas le restreindre à la seule organisation des Jeux olympiques. C'est surtout l'instance mondiale du sport qui représente l'ensemble des sports, qui fait travailler les sports entre eux, qui a un siège aux Nations Unies, notamment auprès comme ambassadeur de la paix, et donc par le sport, travailler à l'échelon mondial sur tout un tas de développements qui permet à des petites nations d'aller participer aux Jeux olympiques ou développer le sport grâce au CIO dans des pays qui en ont cruellement besoin.
Donc si on a par exemple un jour Paris 2024, etc., ça sera grâce au CIO ?
En tout cas, ce sont les 95 représentants des pays qui voteront. C'est eux qui sont dépositaires de l'organisation des Jeux Olympiques et qui, chaque Olympiade, tous les 4 ans, eh ben, quelque part, font un appel à candidature. Donc Paris, bien sûr, est candidat en 2024 pour accueillir les Jeux Olympiques. Et on saura la réponse le 13 septembre à Lima. Voilà, donc tout le monde du sport français est mobilisé jusqu'en septembre 2017 pour, on n'a pas une revanche sur la candidature de 2012 face à Londres, mais quand même... j'étais en séminaire, hein, je l'ai dit, avec le sport français il y a quelques jours. Je pense que le bilan de l'échec de la candidature de 2012 a été bien fait. En gros, le bilan, c'est qu'en 2012, Londres a mis les athlètes en avant, la France a mis les élus, les politiques en avant, et je pense que ça n'a pas plu à l'instance mondiale olympique, et que là, aujourd'hui, c'est vraiment une candidature des sportifs et du sport français, et que l'ensemble des collectivités, l'État, la région Île-de-France, la ville de Paris, sont en service de la candidature des athlètes, et ça, c'est plus gage de victoire.
Et est-ce que le fait aussi de faire des Jeux Olympiques, alors entre guillemets à bas coût, est-ce que là aussi, ça ne rentre pas en ligne de compte ? Parce que c'est vrai qu'on a souvent reproché au CIO de prendre des villes qui avaient des budgets énormes, hein, Dubaï, etc., pour pouvoir organiser ou le Japon, pour organiser de gros événements. Paris est très modeste, mais j'ai cru comprendre que ça avait été salué plus ou moins par le CIO en disant « on va pouvoir utiliser des infrastructures actuelles, en rénover quelques-unes, construire bien sûr d'autres ». Mais c'est vrai que le budget n'est pas exorbitant contrairement à certains pays. Est-ce que justement le critère argent ne rentrera pas non plus en ligne de compte ?
Petit budget, on est quand même sur plusieurs milliards d'euros.
Oui, non,
mais c'est
d'accord.
Vrai que ce qui est important, c'est que le budget français sera tenu. Et qu'aujourd'hui, on a plus de 90% des installations qui sont déjà existantes. Et que l'ensemble des nouvelles installations sont déjà prévues, notamment le grand parc nautique. On manque d'une immense piscine olympique sur Paris. Donc, de toute façon, c'est un grand équipement structurant qui est prévu et que l'ensemble des installations, je le dis, plus de 90% sont déjà existantes. Ensuite, on a la chance d'avoir un site qui est sur 10 km, hein, à part quelques exceptions, la voile sur Marseille. Mais en tout cas, avoir une densité des installations sportives qui est vraiment aussi un grand atout de la candidature de Paris, à l'inverse de Rio où... tous les athlètes, tous les entraîneurs ou tous les journalistes ou tous les spectateurs avaient plusieurs heures de transport entre les différents sites. Hein, c'est l'écho qu'il y a eu négatif de Rio. En tout cas, Paris a vraiment cet atout d'avoir une concentration des installations.
Donc, le verdict dans 6 mois.
Exactement, avec différentes étapes, des dépôts de dossiers. Mais en tout cas, la volonté, c'est vraiment de laisser aussi un héritage. Rappelons-nous que la dernière fois que la France a accueilli les Jeux Olympiques d'été, c'était en 1924. Il y a un siècle.
Ça sera, ça sera 2024, ça sera le centenaire.
Exactement, donc il ne faut pas non plus être dans la nostalgie et dans les chiffres excessifs, mais en tout cas pour montrer qu'on parle beaucoup, on est un pays, on est le berceau des Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux Olympiques modernes, mais en tout cas, on ne les a plus réorganisés. Je fais exception des Jeux
d'Albertville,
des Jeux d'hiver, bien sûr, avec Grenoble en 68, Chamonix.
Mais en tout cas, les Jeux d'été, non.
Depuis 1924, on a pu organiser, on a été souvent candidat, malheureux, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que le bilan des échecs précédents a été bien fait et qu'aujourd'hui, les athlètes portent, et le monde du sport porte positivement cette candidature.
Donc là, on a parlé effectivement donc, du rôle du comité international olympique. Ensuite, au niveau local, entre guillemets au niveau national, on a donc le CNOSF, le CROSS et le GDOS. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces trois instances? Déjà, quel lien y a-t-il entre elles et qu'est-ce que ça veut dire?
Donc c'est vrai que ce sont des sigles qui peuvent paraître barbares quand on n'y est pas accoutumé, hein. Mais le sport olympique, l'olympisme, il est donc décliné à l'échelon international. Il est composé de toutes les fédérations internationales, qu'elles soient olympiques ou non d'ailleurs. À l'échelon national, ce sont toutes les fédérations nationales, la Fédération française de foot, de tennis, de...
Elles sont toutes affiliées au...
Elles sont toutes membres du Comité national olympique et sportif français. Ça existe à l'échelon régional. Tous les comités régionaux de toutes les disciplines sont rassemblés dans la maison commune qui est le Comité régional olympique et sportif. Et à l'échelon départemental, l'ensemble des comités départementaux, des disciplines représentées sur le département, se regroupe dans la maison commune olympique qui est le comité départemental olympique et sportif qui a un siège à la maison des sports d'Avignon.
Tu dis la plupart des... Donc toutes les associations sont affiliées, même celles qui ne sont pas disciplines olympiques ?
Oui. Le comité olympique, l'instance olympique sur le Vaucluse notamment a 4 collèges. Il y a les disciplines olympiques, l'athlétisme, le triathlon... Il y a les disciplines nationales qui ne sont pas olympiques, par exemple le rugby à 13. Hein, pour donner un ordre d'idée, je suis venu avec quelques chiffres. Il y a 23 disciplines olympiques, il y a 17 disciplines nationales, il y a 5 disciplines multisports affinitaires. Les disciplines affinitaires, c'est par exemple le handisport, le sport adapté, ou les disciplines, les fédérations comme l'UFOLEP ou le PMM, le PGV. Ce sont les 5 fédérations qui existent sur le comité départemental. Et ensuite, le sport scolaire, l'UNSS, l'UCEP.
Donc tout ça, c'est représenté dans cette entité.
Absolument.
Ah oui, donc effectivement, donc,
moi,
c'est vraiment
représentatif. Moi, je ne voyais pas le rapport du sport scolaire, je ne voyais pas du tout l'UNSS là-dedans.
Oui, tu vois, c'est parce qu'on cantonne l'olympisme à la haute compétition. L'olympisme, c'est le rassemblement du sport dans toute sa diversité et c'est l'instance qui peut parler au nom du sport à son échelon. Le GDOS de Vaucluse parle au nom du sport à l'échelon du département. C'est l'interlocuteur qui a un travail transversal au nom de l'ensemble des sports. Il ne gère pas individuellement chaque sport, mais il peut parler au nom de l'ensemble du sport.
D'accord.
Et justement, donc, le comité départemental olympique et sportif donc, reprend donc, toutes ces... ces collèges. Après, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres missions, je suppose, que justement d'être le représentant et l'interlocuteur privilégié de tous ces sports?
Vous savez, on parle de l'organisation du sport en France, dont on est très fier, mais dont aucun autre pays au monde s'est inspiré. Donc on est dans une organisation très étatique, hein, très organisée. Il y a d'autres pays, les États-Unis sont dans un développement différent. En tout cas, c'est un système qui marche, qui peut être amené à évoluer. Mais en tout cas, il faut parfois assurer d'une voix unique les enjeux du sport. Je peux donner un exemple. Par exemple, pour garantir l'intérêt sur les activités de pleine nature dans la globalité, sur l'accès aux massifs, pouvoir continuer à garantir l'accès des disciplines de vélo sur les routes, pouvoir travailler avec les services de l'État sur un certain nombre de grands choix, travailler sur la question de l'éthique, de la lutte contre la violence, sur favoriser l'arbitrage au sens général, pas forcément discipline par discipline, on se rend compte que l'ensemble des sports peuvent rencontrer les mêmes difficultés et pouvoir apporter parfois des solutions qu'on peut dupliquer sur d'autres sports.
Ah oui, donc l'intervention, on va dire, de ces organismes est très très large. On fait une petite pause et ensuite on se retrouve justement pour parler des missions précises du GDOS. À tout de suite.
My way to save, at least I did it my way. My way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 I did it my way, my way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Sur RTVFM.
Si vous nous rejoignez, bah écoutez, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire de sport. Hein. On parle pendant 1h30 de sport. Aujourd'hui, c'est l'olympisme avec le comité départemental olympique et sportif de Vaucluse avec Roland Davot. Bonsoir, rebonsoir Roland.
Rebonsoir.
Donc, tu es administrateur au sein justement de cette entité. Ça fait 3 mandats et les élections vont avoir lieu cette année. On en parlera dans quelques instants. Je suis accompagné, bien sûr, de ma petite Valérie. Alexandre est malade.
Oui, hein? Alexandre est malade.
Mais on pense très fort à lui.
Oui, oui, oui. Hein? Ah oui, oui, non, mais honnêtement, je pense très fort à lui.
Tant mieux. Donc, on parlait justement de l'olympisme, de l'organisation des Jeux Olympiques. On sait que dans 6 mois, on aura la réponse pour Paris 2024. Et on parlait également du comité départemental. On parlait effectivement que tous les sports étaient regroupés et appartenaient, on va dire, au comité départemental olympique et sportif, etc. Même les sports qui n'étaient pas olympiques. Par contre, je pense que le CDOS a également d'autres missions, des missions transversales. Il ne s'occupe pas que de rassembler les présidents d'associations.
Alors, président de comité départementaux.
D'accord.
D'accord. Mais bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ce rassemblement ? Donc on a défini, mais sur une architecture qui nous est donnée par l'échelon national, un certain nombre de thématiques sur lesquelles on travaille. Et quelque part, le but de l'instance olympique, c'est de montrer la lumière, la voie à suivre. C'est que c'est pas juste expédier les affaires courantes. Je pense notamment à la question des femmes dans le sport, leur place dans les fonctions de gouvernance. Le féminin de président d'association, c'est pas forcément secrétaire. Voilà, comment on facilite l'accès aux responsabilités, mais aussi à la pratique sportive pour les jeunes femmes. Donc on travaille sur des modèles et avec l'ensemble des 49 comités départementaux, comment leur donner des outils, comment faire des échanges d'expériences avec des comités qui ont des succès dans un certain nombre de thématiques, comment il est possible ou pas, mais souvent possible, de dupliquer dans d'autres disciplines. Je pense à la question du handicap. Donc on a 2 comités qui sont très dynamiques, le sport adapté et le handisport. Mais comment on peut, au travers de la commission sport handicap, que je préside depuis 4 ans, réussir à créer des vocations et expliquer comment on fait. Je vois ce qui se passe notamment au comité de tennis, qui est devenu exemplaire et qui a, je crois, beaucoup appris au sein de la commission sur comment construire leur projet handi-tennis. Voilà, comment on peut développer tout un tas de projets sur la formation, comment on forme les bénévoles. Aujourd'hui, les associations, ça devient de plus en plus technique de gérer une association. Et donc, on propose tout un tas de formations. Être trésorier d'une association, ça demande une formation, une compétence qu'on n'a pas forcément. La comptabilité associative, c'est quelque chose de très particulier. Donc, l'instance olympique, avec l'outil extraordinaire qui est la Maison départementale des sports, propose tout un tas de formations aux bénévoles.
Mais pour essayer de voir plus clair, est-ce que moi je reviens un petit peu en arrière. Tu parles des comités. C'est quoi la différence, on va dire, on a l'association, on a le comité dont tu viens de parler, mais le CDOS c'est un comité aussi. Donc c'est quoi le comité en fait ? Tu parles des comités, le comité de tennis.
Je pense que les auditeurs doivent avoir à l'esprit la pyramide. Le socle de la pyramide, ce sont les clubs.
D'accord.
Au-dessus des clubs, les comités départementaux de chaque discipline. Au-dessus, les comités régionaux, leur fédération française, leur fédération internationale. D'accord. Là, le visuel est assez simple. Ensuite, l'instance olympique qui est à côté est aussi une pyramide. Alors, n'est pas composée des clubs, est tout de suite composée de l'ensemble des comités départementaux. J'allais dire, c'est le Sénat du sport à l'échelon départemental.
Oui, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de monde si tous les présidents de clubs étaient effectivement. Donc, il faut une seule et même voix pour chaque discipline.
Exactement.
Voilà. Donc, ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y a tellement. Bon, on parlait tout à l'heure des abréviations, mais il y a tellement. L'architecture, elle est bien faite, mais tu dis, elle est très étatisée. Donc, c'est vrai que il faut qu'on puisse mettre le puzzle dans le bon sens justement pour essayer d'y voir clair, et le but du jeu aussi c'est de pouvoir y voir clair, parce que c'est vrai qu'on, quand on parle, on va dire, des Jeux Olympiques, on parle que des Jeux Olympiques, on parle du CIO, on parle que du CIO, mais le CIO il ne fait pas tout, grâce justement à vous acteurs de terrain. Donc voilà, donc ça, c'était juste une précision par rapport à ça.
Tu parles un point, si je peux le dire, qui est très important pour moi, c'est que c'est une assemblée de bénévoles, à l'inverse du CIO. Vraiment, l'instance olympique à l'échelon départemental et régional, ce sont des bénévoles. Nous, on est sur le terrain, on a été président de club, de comités départementaux, et par effet, on prend les responsabilités dans l'instance olympique de notre territoire, mais on sent le terrain. On ne sent pas les élites, on est en phase vraiment avec le terrain.
Oui, ce n'est pas la macroéconomie, c'est vraiment l'économie de terrain et la proximité justement avec les clubs, ce qui permet peut-être aussi de proposer d'autres actions justement au niveau du CDOS. Je sais que vous proposez également au niveau de l'emploi, vous intervenez au niveau de l'emploi, au niveau des validations de l'acquis.
Absolument, bien sûr que dans le cadre de la professionnalisation dans le sport, On a un Krebs à Aix-en-Provence, mais on a voulu aussi rapprocher des Vauclusiens la possibilité de se former et de rentrer dans l'emploi. Parce que je pense quand on parle du sport, c'est comme un iceberg. Il y a la partie immergée, et la, ce qu'on voit, ce que vous avez parlé notamment dans la première partie de l'émission, l'élite et le sport professionnel, mais l'immense partie dont on parle peu, ben c'est la partie majoritaire. C'est le sport des terrains, c'est le sport du territoire, c'est le sport de nos enfants. On en parle, vous en parlez parfois dans vos émissions, mais à l'échelon national, à Stade 2 notamment, on parle rarement de ce qui se passe à Altin des Palus.
Ah oui, le sport pour tous, c'est totalement...
Mais elle est extrêmement majoritaire et nous, c'est notre ambition, c'est notre responsabilité d'animer la plus grande partie du sport, mais qui n'est pas forcément celle qui est la plus médiatisée.
Donc c'est vrai que c'est important justement. Et ce que tu as dit, c'est important aussi, c'est que vous êtes que des bénévoles. C'est-à-dire que vous prenez énormément sur votre temps personnel parce que s'occuper d'instances aussi importantes, bah, il faut quand même du temps. Hein, Valérie, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mais
Oui, ben, quand on sait ce que Roland fait, donc c'est encore du travail qu'il se donne. Quoi. Je veux dire, parce que tu es investi dans pas mal de choses, entre autres.
Après, en étant dans plusieurs structures, ça permet... c'est pas pour mon intérêt personnel, ce sont des fonctions bénévoles, mais en ayant une vision transversale, en étant dans, des fois dans plusieurs structures, ça permet de monter des projets, de mettre les personnes en relation. Je pense à la mission locale. Ben, quand des jeunes se prédestinent peut-être à des métiers dans le sport, eh ben, on peut aiguiller vers Profession Sport, qui est aussi à la Maison des Sports, que j'ai la responsabilité de présider depuis 4 ans, d'aller vers les métiers du sport. On a un centre de formation qui peut permettre aux Vauclusiens d'aller vers les métiers du sport et de pas forcément devoir aller très très loin. On sait que les coûts de transport ou d'hébergement quand on doit aller loin sont un facteur parfois d'abandon pour la formation. Le fait d'avoir ce centre de formation sur le Vaucluse, bah, c'est quelque chose d'important et qu'on doit soutenir. Il vaut mieux parfois ramener la formation proche de la population que de devoir déplacer à chaque fois tous les stagiaires.
Donc c'est-à-dire qu'au niveau du comité départemental, c'est plutôt des formations professionnalisantes que vous proposez, et les comités, eux, de chaque discipline, c'est plutôt des brevets de bénévoles, c'est-à-dire des brevets fédéraux, ou pas forcément ?
Non. Tout ce qui est formation d'encadrement fédéral, ce sont chaque fédération qui sont organisées. Mmh. Là, je vous parle de formation pour les dirigeants sportifs. Comment gérer un site internet.
C'est-à-dire que la formation au niveau du DOS, c'est souvent des formations.
Ce sont des formations pour les dirigeants sportifs, qu'ils soient de club, de comité, la prise de parole en public, je l'ai dit, tout ce qui est financier, il y a tout un tas de sujets où on aide les bénévoles à monter en compétences pour pouvoir mieux exercer leur fonction. Ensuite, on a un centre de formation pour des formations professionnelles, pour deux BPJEPS, activité physique pour tous et les activités de la force et de la forme.
Voilà, au moins c'est clair, comme ça permet justement, s'il y a des dirigeants intéressés, ils peuvent prendre contact directement avec le comité départemental, mais surtout pour les petites associations.
Si je peux dire une autre chose sur les formations.
Mais bien sûr, c'est ton émission.
Aujourd'hui, l'instance olympique, c'est vrai qu'on aide davantage les petits comités. Alors c'est pas péjoratif, mais ceux qui sont le moins costauds, honnêtement, aujourd'hui l'instance olympique est moins utile pour le football et le tennis qu'il l'est pour le triathlon ou pour l'haltérophilie. La mutualisation, le travail en commun, il est plus utile pour les plus modestes que pour les plus puissants. Mais l'intérêt aussi, c'est que le football, le tennis, l'athlétisme se détournent pas de l'instance olympique et sont vraiment dans la maison commune.
Alors, vous faites aussi beaucoup pour l'emploi, mais qu'est-ce que vous proposez justement au niveau de ce thème emploi ?
Alors, l'outil, c'est Profession Sport. Notamment, on fait du portage salarial. Ça veut dire que parfois, les freins à l'emploi... C'est tout ce qui est fiche de paye. Donc, on est tiers de confiance de l'URSSAF. On peut gérer les fiches de paye pour une association. Voilà, gérer les cotisations. Ça facilite quand même grandement l'action du président et des dirigeants des clubs. Aussi, avoir une connaissance très fine de la convention collective du sport. C'est que souvent, quand on est bénévole, on y est parce qu'il y a nos enfants, on y est parce qu'on est passionné par cette activité. On n'est pas forcément prédestiné à être employeur avec toute la législation qui s'impose. Quand on est bénévole, on vient par plaisir sur son temps libre. Et oui. Là, on doit respecter le champ du travail. Donc, on a besoin d'être accompagné. Et parfois, on se rend compte que pour créer un emploi, une association n'a pas forcément besoin de quelqu'un à temps plein ou n'a pas forcément les capacités financières à prendre quelqu'un à temps plein. Mais on peut avoir 10 heures dans un club de tennis, 10 heures dans un autre. Vous savez qu'on arrive à créer de l'emploi pérenne et à temps plein pour des salariés et à la fois faire du bien sur le terrain.
En mutualisant.
Exactement.
Ça, c'est une bonne chose. Hein. Et vous faites également, vous participez, parce que bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le gros fléau qu'il peut y avoir dans certains sports, c'est les problèmes d'agression, de violence dans les stades, sur les terrains. Puis malheureusement, c'est récurrent. Souvent, ce sont dans les mêmes disciplines sportives. Et j'ai vu que vous aviez, une intervention sur l'éthique et le fair play. Mais est-ce que justement, ce n'est pas plutôt le rôle des comités, des disciplines concernées, de faire un petit peu le ménage ? À quel niveau vous pouvez intervenir ?
Alors déjà, je dois donner mon désaccord. Tous les sports sont concernés.
Par la violence ?
Tous les sports sont concernés. Après, un sport qui a 500 licenciés et un qui en a 50 000, forcément, le nombre d'événements n'est pas le même. La sociologie du sport aussi est importante. Quand on a des enfants de cadre dans une discipline qui paraît très élitiste et quand on est dans un sport très très populaire, il peut y avoir aussi, et qu'il ne faut pas penser qu'il y a des sports à violence et des sports où il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est vraiment un sujet de société. Oui, il faut aider les disciplines qui rencontrent le plus de problèmes, donc on met en place...
C'est un peu la faute des médias alors.
Pardon ?
C'est un peu la faute des médias parce que c'est vrai qu'on a tendance à médiatiser souvent les mêmes.
Oui, effectivement, pour le dire, on pense souvent au football ou à d'autres disciplines, mais et on parle plus des violences faites dans le football et beaucoup moins quand même de tout ce qui se fait de façon extraordinaire aussi dans le football, parce qu'il y a peut-être plus de violences, mais c'est là aussi où il y a le plus de choses extraordinaires, des actes de fair play, et qu'au sein de l'instance olympique, on fait coexister la question de la valorisation de l'éthique et du fair play et la question de la violence. Parce que d'un autre côté, il faut valoriser les bonnes attitudes. Et il faut être intransigeant avec les mauvais comportements, notamment vis-à-vis de l'arbitre. Et ça, c'est quelque chose qui est transversal, parce que l'arbitrage, c'est quelque chose qui est intrinsèque au sport. Il n'y a pas d'équité sportive sans arbitre. Et que quelque part, la protection de l'arbitre, elle est garant d'un sport équitable.
Et donc, comment vous la valorisez, cette action ? Au travers justement des arbitres ? Au niveau de quelles actions vous faites la promotion justement pour l'éthique et le fair play.
Donc notamment, on organise avec le conseil départemental les trophées du sport vauclusien. C'est que l'éthique, le fair play, c'est une qualité, mais ça doit être une qualité, j'allais dire, transversale, qui doit se retrouver dans tout. On a eu dans le passé une soirée du fair play, mais la différence, c'est qu'on pense qu'il fallait fusionner la performance et l'attitude. Les séparer, ça voulait dire qu'on pouvait avoir un bon comportement d'un côté, mais que par contre, pour être un champion, on n'est pas obligé d'être quelqu'un de fair play, ce qui est complètement faux. Il faut absolument que l'exemplarité sportive soit aussi sur l'exemplarité du comportement.
Par contre, pour justement avoir autant d'actions, mener autant d'actions, il vous faut quand même des partenaires. Vous êtes accompagné justement de personnes qui vous aident à ce niveau-là, des partenaires ?
Alors, il y a 4 salariés au sein du comité olympique départemental, donc qui suivent aussi les bénévoles. Hein. C'est vraiment des chargés de mission qui ont une compétence très grande, qui permettent d'accompagner. On reste dans une association. Mais après, c'est vrai qu'il faut ouvrir sur des partenariats. Je pense notamment au travail qui a été fait sur la lutte contre l'homophobie. Donc on s'est rapproché d'associations LGBT qui nous ont ouvert sur un certain nombre de choses. On a pu aller avec eux dans les écoles. Je pense à la lutte contre le racisme. Hein, on parlait du match Bastia-Nice, hein, avec, semble-t-il, des cris de singe pour de l'OGC Nice. C'est scandaleux. Mais quelque part, les comportements... Ils doivent être exemplaires au plus haut niveau, à tout niveau d'ailleurs, mais aussi au niveau professionnel et de très haut niveau, pour que nous, après, sur le terrain de l'initiation, et on puisse aussi imprimer les bons comportements.
Et il y a un dernier point où vous intervenez de manière très active et vous aidez énormément, on va dire, le territoire, c'est avec le CNDS.
Alors, nous siégeons l'instance olympique au CNDS.
Voilà. Vous siégez, vous participez.
Voilà, on garantit quelque part l'intérêt du sport aussi au sein du CNDS, mais c'est un travail aux côtés des services de l'État et des collectivités territoriales
Oui, parce que c'est un collège, en fait, qui regroupe plusieurs entités. Mais vous êtes présent, vous participez de manière assez active. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur le CNDS pour les personnes qui ne connaissent pas ?
Le CNDS, c'est un fonds, donc le Centre National du Développement du Sport, qui est une taxe, notamment, qui est ponctionnée sur la Française des Jeux, sur le tabac également, qui arrive dans un fonds et qui permet de financer les activités du sport amateur. Ça ne finance pas le sport professionnel, hein, c'est quelque chose d'important pour nous. Ça ne finance pas l'Olympique de Marseille, et là c'est la place plus du champ privé. En tout cas, c'est un fonds qui permet, sur des actions précises, donc il y a des orientations chaque année qui sont fixées. C'est vrai que la question du handicap, ça peut être sur l'acquisition de matériel ou le développement de projets dans ce sens.
Et sinon, au niveau du GDOS, vous menez de nombreux projets. Est-ce que tu sais à peu près, sur les 3 dernières années, le nombre de projets que vous avez pu mettre en place et mener à bien ?
Non, je l'ignore. Non. Mais en tout cas, on a mis en place la méthode. La méthode qu'on demande au club, au comité, c'est la méthode du projet. Ça veut dire qu'on ne se lève pas le matin en se disant « qu'est-ce qu'on va faire ?» Il faut penser à un projet sur 4 ans sur l'Olympiade. C'est notre feuille de route, alors qu'il doit parfois, suivant les évolutions qu'il peut y avoir. Là, je pense au sport santé. La loi vraiment a été votée début janvier. Donc, il y a des petits aménagements à faire. Ce n'était pas prévu il y a 3 ans. Donc, on a réaménagé le projet. Mais en tout cas, les axes, ils nous sont fixés par le CNOSF. Et donc, on a 4 ans pour mettre en place tout un tas d'actions. Sur la question du handicap, j'avais 3 axes. Favoriser l'accessibilité des équipements sportifs, la formation des encadrants et le développement des activités. C'était nos 3 axes et on a travaillé là-dessus sur tout un tas de mises en place de projets sur les 3 axes qui avaient été travaillés sur cette thématique en particulier.
Cette année des élections, donc on va laisser le suspense, hein, parce que juste la date des élections, c'est
le 4 mars et ça sera à Carpentras.
À Carpentras.
Absolument.
Allez, à tout de suite.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer 2 fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré vif, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Alléluia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc de retour dans le studio, on parlait des compétences, des missions du comité départemental olympique et sportif de Vaucluse avec Roland Davo. À l'heure actuelle, qui est le président du GDOS 84 ?
C'est Jean-Luc Dagoumel qui vient de l'athlétisme.
Ça fait longtemps qu'il est président ? Bon, en nombre de mandats, je parle.
C'est son premier mandat.
C'est son premier mandat. Donc des mandats de 4 ans. Il est élu comment ?
Donc il est élu donc, tous les 4 ans.
Par qui surtout ?
Ma question est mal formulée.
Donc par les 49 présidents des comités départementaux. C'est une élection, ce n'est pas l'ensemble des licenciés sportifs d'un département qui votent, mais les présidents de comités départementaux.
Et lui, il est élu au suffrage universel direct ou indirect ?
Non, c'est un scrutin uninominal par collège. Donc je le disais, sur les disciplines olympiques, par exemple, il y a 23 comités qui sont dans les disciplines olympiques, mais il n'y a que 10 comités qui sont élus. Dans le collège olympique, il y a 10 places.
10 places.
Sur les disciplines nationales, comme le rugby à 13, ils sont 17 et il y a 6 places.
D'accord.
Voilà. Donc, suivant sa discipline, il y a un nombre de places réservées. Mais s'il y a plus de candidats que de sièges à affecter, ben, c'est le vote qui fait qu'on départage les différents candidats.
Et est-ce qu'il arrive que, justement, il n'y ait pas assez de candidats ? Pour pourvoir tous les
oui,
postes dans certaines disciplines peut-être
ça peut arriver. Dans ce cas-là, l'équipe après élue a la possibilité de désigner des personnes qualifiées pour combler les sièges qui seraient vacants. Mmh. Alors honnêtement, ça arrive quasiment plus.
Ah d'accord.
Parce que je pense qu'il y a vraiment une compréhension et un attrait de l'ensemble des comités départementaux du Vaucluse à venir dans l'instance pour travailler.
Oui, parce que avant que ces fédérations donc vous rejoignent, il faut, comme tu l'as fait aujourd'hui à l'antenne, il faut expliquer le fonctionnement du GDOS et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident.
Oui, c'est vrai.
C'est
que
pas évident à comprendre. Donc pour leur intérêt, pourquoi y aller ? Pourquoi aller encore s'embêter à assister à des réunions ? Pourquoi s'investir alors qu'on ne sait pas où ça mène, quoi ? Donc,
C'est surtout que souvent la motivation c'est le sport et je crois qu'il faut jamais l'oublier, le sport c'est le terrain, c'est pas nous avec nos cravates quand on fait des beaux discours, on doit être des outils et que ça doit se ressentir les décisions, les moyens et toutes nos réflexions qu'à un moment donné ça doit avoir un effet sur le terrain, mais il faut aussi des instances transversales de représentation parce qu'il y a des enjeux départementaux, nationaux, où il faut une instance qui parle au nom de tout le monde.
Donc, combien y a-t-il ? Donc, il y a le président qui est élu. Et au niveau du GDOS, il y a combien de membres qui composent l'ensemble, justement, du collège ?
Donc, je l'ai dit, il y a 10 disciplines olympiques, 3 affinitaires, 6 fédérations nationales, 19 plus 2, ça fait 21 administrateurs.
21. Ensuite, donc, il y a des commissions. Toi, tu
Absolument.
Es président de la commission sport et handicap.
Absolument.
Il y a combien de commissions au total ?
Alors, ça peut être variable. Aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il y a 6 commissions.
6 commissions.
Mais c'est quelque chose qui peut évoluer suivant les évolutions de la société, suivant les volontés aussi et les priorités que donne le comité national olympique. Il peut y avoir des évolutions.
C'est-à-dire que vous êtes quand même soumis, on va dire, à des directives du comité national.
À l'instance olympique, il y a une cohérence. Il ne peut pas se faire des choses différentes entre l'échelon départemental. On est le représentant, le GDOS de Vaucluse, du comité national olympique à l'échelon du Vaucluse. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans les réflexions et dans le travail.
Donc on disait que cette année, il va y avoir les élections. Donc c'est le 4 mars prochain à Carpentras.
Absolument.
C'est une première, Carpentras ? Oui, ça a déjà eu lieu ?
Oh, à ma connaissance, oui, c'est une première.
Et il y a autre chose qui est une première ? Parce que là, on a le président actuel, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de se présenter ?
Donc Jean-Luc a annoncé qu'il ne briguerait pas un mandat supplémentaire. Mmh. Donc d'autres, de toute façon, la possibilité d'être candidat. Et que, à mon sens, une candidature à la présidence, il faut qu'elle s'inscrive dans une légitimité dans sa discipline, mais aussi avoir un enracinement territorial. Et je le dis aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard que j'ai souhaité le faire sur RTVFM, parce que je suis comptadin et que je voulais annoncer que je suis candidat à la présidence du CDOS de Vaucluse. Mais c'est une véritable équipe qui se propose de diriger l'instance olympique pour les 4 prochaines années. On souhaite un CDOS uni, optimiste, ambitieux et surtout plein d'audace. Un CDOS qui doit montrer la voie à suivre à l'ensemble du sport départemental. Pour ma part, je veux un sport vauclusien qui se rassemble autour d'un projet commun. On va rédiger avec les comités un projet. Je ne viens pas avec un projet tout ficelé que je vais imposer. Il faut co-construire un projet sur les 4 ans, dans les axes qui ont été fixés par le CNOSF, mais un projet commun qui sera l'incarnation de nos valeurs sportives et valeurs républicaines. La question de la République, des valeurs, de la laïcité dans le sport va être un axe très très fort. Pendant ma vie de responsable associatif, on l'a dit, j'ai été président de la commission sur l'éthique et le fair play, sur le handicap, je préside Profession Sport aujourd'hui, j'ai été marqué par la force du sport. Il marque à jamais tous ceux qui le vivent, qu'ils soient athlètes, entraîneurs, dirigeants. Mais au-delà des personnes, le sport peut transformer un territoire, je le crois foncièrement, et transformer aussi la société. Si nous sommes candidats, c'est parce que l'on croit au pouvoir du sport. Le sport fait du bien, et pas forcément qu'au corps. Le sport incite au partage et au respect, parce que même dans un sport individuel, la victoire est toujours celle d'une équipe. Et les émotions, bien plus fortes lorsqu'elles sont partagées. Voilà, il pousse bien sûr au dépassement de soi et à la persévérance. Et pour moi, l'olympisme, c'est une source inépuisable de rêves, où le mot fraternité prend bien sûr tout son sens. Pour moi, faire le choix du CDOS et d'aller à la présidence, c'est croire en ses rêves les plus fous et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Échouer, ça fait partie du sport, mais se relever et toujours avancer avec humilité et respect, et toujours rester fidèle à ce que l'on est.
Donc, tu es candidat, c'est une, je pense que c'est mûrement réfléchi, ou c'est, vu un petit peu l'ambition que tu as, l'équipe... mais est-ce que justement, le fait d'avoir toute ton expérience au niveau du mouvement sportif, au niveau de tes 3 mandats justement au CDOS, t'ont aidé justement à prendre cette décision ?
Ça me paraissait quasiment naturel. Après avoir autant appris, j'ai beaucoup appris aux côtés de Jean-Luc Dagoumel, j'ai beaucoup appris auprès de Maurice Mouet, le président précédent. Mais c'est d'abord une réflexion familiale. Parce que s'engager à ce niveau de responsabilité, si le sport vauclusien me fait l'honneur de me choisir, ça aura forcément un impact sur la vie, sur ma vie personnelle. Et donc, oui, ça a d'abord été un choix, une réflexion familiale. Parce que, voilà, il faut avoir une assise familiale, mais c'est quelque chose qui a été réfléchi et aussi discuté avec un grand nombre de représentants du sport qui sont venus me voir, que je suis allé rencontrer aussi pour leur dire, voilà, qu'à un moment donné, j'ai servi, mais que ça me paraissait le moment aussi d'accéder à la fonction de président pour pouvoir davantage impulser avec ce qui peut m'animer. C'est aussi peut-être, parce que 3 mandats, j'étais le plus jeune, je suis encore le plus jeune dans l'instance olympique en Vaucluse, et que je vois la glace tous les matins, je suis de moins en moins jeune. Que j'étais aux assises du sport français, et je crois que c'était évident que j'étais encore le plus jeune. Et que je pense qu'il faut aussi... c'est pas pour faire du jeunisme, j'ai 42 ans, je suis pas non plus nouveau dans le sport vauclusien, mais qu'il faut qu'il y ait aussi une nouvelle génération qui arrive. Donc je souhaite vraiment que m'entoure une équipe d'expérimentés, mais aussi de nouveaux visages qui vont venir pour apporter aussi une vision de la société parfois plus moderne, parce que réussir à se réinventer, c'est pas toujours facile.
Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et on rentrera un peu plus justement dans ce projet, parce que tu disais, c'est vrai que c'est un projet de 4 ans, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à améliorer, parce que même si les choses qui ont été faites précédemment sont bien, la société évolue très vite, le sport évolue également, on le voit ne serait-ce que par rapport aux résultats sportifs. Donc on fait une petite pause et on va décortiquer tout ça. À tout de suite.
love, I kill any pain. Look what you got. I'm a star boy.
Alexandre sur RTVFM.
Voilà donc de retour dans le studio de RTVFM où on a, juste avant la pause musicale, Valérie, on a appris une nouvelle, une très très bonne nouvelle.
Oui, que Roland, s'il devient président.
Non, il se présente, oui, à la présidence du comité départemental
et
olympique et sportif de Vaucluse.
Et que si il devient président, ça sera le premier carpentracien président.
C'est bien.
Ben oui, on va faire un peu de chauvinisme.
Non, mais
voter,
après,
alors est-ce qu'il faut faire vraiment une élection alors ?
Allez, on vote pour Roland.
Ah ben on vote pour Roland,
ouais,
forcément.
Bah c'est sûr.
Et
en plus, on connaît. Alors
il parlait de la jeunesse, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un problème. Donc, je ne remets pas du tout les compétences de Roland en cause, au contraire, parce que je pense que Roland, il a vraiment l'étoffe, justement, pour être président, justement, de cette instance, parce qu'il a la connaissance, comme il le disait tout à l'heure, hein, du terrain. C'est vrai qu'il faut connaître le terrain, il faut connaître les sportifs. Il a la chance, on va dire, d'être dans différentes associations pour s'imprégner un petit peu des demandes des uns et des autres pour essayer justement de rassembler tout le monde. Et je pense que le rassemblement, c'est très très important. Et
puis Roland, aussi, et je veux dire, Roland a quand même 3 mandats déjà derrière lui. Je veux dire, donc c'est pas un jeuneau, on va dire.
Il a
même s'il
n'a
que 42 ans, c'est pas un jeuneau dans
voilà,
dans
mais
ses
par
activités,
contre,
quoi.
Effectivement, quand on voit les présidents de fédérations, je parle de fédération nationale, si on faisait le calcul des moyennes d'âge, ça fait peur.
Bah c'est exactement.
Ce sont beaucoup de retraités. Après, ça peut se comprendre aussi. Vous êtes tous des bénévoles. Il faut trouver le temps de pouvoir gérer tout ça. Mais je pense que le sport français a besoin de sang neuf, de sang jeune.
Mais il n'y a pas
et
que
avec
le sport.
Roland,
hein,
ça va permettre d'aider.
Tu reviens en tant que président d'association. Ce sont toutes les associations, je pense, qui ont besoin de renouveau, de jeunes. Et je pense, je ne sais pas, Roland était une exception, je pense aussi, parce que quand même, dans quelle que soit l'association, quand on regarde l'âge moyen des présidents, c'est un peu affolant. Est-ce que pourquoi les jeunes ne veulent pas s'investir plus ? Je ne sais pas.
Peut-être une remarque. Dire que je souhaite accéder à la présidence, mais il y a vraiment une équipe autour de moi.
Bon, bien sûr.
Et que aujourd'hui, je suis mis en avant. Vous dites des propos
très gentils.
Donc, tu
es le plus jeune de l'équipe, c'est ça ?
Je ne sais. Oui, mais c'est pas.
Non, mais tu en as parlé tout à l'heure de
l'équipe. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, oui, il faut un président, mais il y a vraiment une équipe et que il faut se partager la responsabilité. Et je crois aussi à la réflexion collective. Avoir une bonne idée qu'on impose à tout le monde, c'est pas bon. Donc ça sera ma méthode, vraiment, chacun, si je suis élu, pourra aussi avoir droit au chapitre. Il y a un président, mais je crois aussi à libérer la parole. Un point sur la jeunesse. Oui, c'est plus difficile de s'engager quand on est jeune, quand on n'a pas encore de perspective professionnelle, quand on est étudiant et qu'on se dit on va s'engager pour 4 ans dans une association sportive, la perspective est lointaine. Donc j'aurai des propositions à faire. Je crois qu'il faut aussi aller vers les nouvelles technologies. C'est qu'aujourd'hui, avec les réunions téléphoniques, avec Skype, avec les conférences téléphoniques, avec la vidéoconférence, on peut réussir à avoir moins d'impact sur les déplacements et faciliter la place des jeunes, mais aussi la place des femmes. Quand on est maire, c'est pas toujours facile de se faire une heure de route pour aller à une réunion à Pertuis, aller-retour. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une réflexion en utilisant les nouvelles technologies pour faciliter l'engagement et que ça ait moins d'impact sur la vie personnelle des personnes. Parce que quand on s'engage, ça a un poids sur la vie familiale. Et que l'idée, c'est qu'on ne divorce pas tous. Hein,
voire, heureusement.
Non, mais parce que ça peut user l'engagement à ça, que ça excite quand on est dans l'action, mais à la fois, il ne faut pas que ça épuise les proches. Il faut qu'on arrive à trouver aussi un juste équilibre entre donner, mais aussi trouver des moyens que ça impacte moins sur les vies personnelles des associatifs.
C'est vrai que c'est un peu, au départ, une démarche égoïste vis-à-vis du milieu familial, mais en même temps, c'est pour le bien commun. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut faire la part des choses, tu as raison. C'est vrai que là-dessus, c'est une réflexion personnelle mûrement réfléchie. Je voudrais revenir justement sur les projets à venir, les projets que le comité national va t'imposer, on va y revenir dans quelques instants, et tu vas pouvoir nous donner quelques informations justement sur les orientations que tu peux, en tout cas les grands axes. Hein. Mais ce qui m'a marqué dans le discours que tu as parlé, il y a deux choses qui m'ont, on va dire, alerté, c'est tout d'abord la laïcité. Tu penses qu'à l'heure actuelle, la laïcité est mise à mal dans le sport ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants publics qui prennent référence à la laïcité sans savoir forcément, à dessein ou pas, ce qu'il y a dans la loi de 1905. Hein ? Et que notre laïcité française est différente de la laïcité en Belgique et différente du Canada. C'est pour ça que souvent, quand on cherche sur Internet, il faut faire attention sur quoi on tombe. Mais notre laïcité, ce n'est pas un principe qui exclut. Au contraire, on est une république qui ouvre les bras. Pas une république qui interdit la religion, mais une république qui ouvre les bras et qui accepte chacun dans sa diversité, dans le respect du droit français. Mais en tout cas, quelque chose. Et il y a des formations, notamment moi j'ai eu 2 jours de formation auprès des services de la préfecture du Vaucluse pour repositionner bien les principes de la laïcité en France, sur quoi on peut s'appuyer en matière de droit. Moi, j'ai vu comment on peut l'appliquer au domaine du sport. Et je pense qu'il y a tout un tas de sujets où on a des clés maintenant pour pouvoir sortir de situations de crispation.
Parce que j'ai l'impression justement que parler de laïcité, le problème de laïcité, donc créer un certain clivage au niveau du milieu sportif et même au niveau international, parce qu'on avait vu par exemple des femmes, on va dire, qui faisaient du sport, pas en burqa mais presque, mais en même temps ces femmes-là, c'est la première fois qu'elles faisaient du sport. Donc où est-ce qu'on met le curseur ? Est-ce qu'on leur interdit de faire du sport parce qu'elles sont mal habillées entre guillemets, pas une tenue adéquate pour pratiquer ce sport-là, ou bien on est tolérant? Est-ce que tu as un avis là-dessus, justement ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je crois que c'était en Arabie Saoudite où, justement, il y avait ces femmes-là qui pratiquaient le sport. Je me demande si c'était pas du volley.
Mais je sais pas s'il n'y a pas eu, lors d'une discipline, lors d'un championnat, où on a vu, je ne sais plus ce que c'était comme nationalité, je ne sais pas si c'est pas l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas trop, justement, effectivement, qui courait. On la plaignait parce qu'il faisait très chaud, mais elle a fini dernière à la course d'ailleurs. En course, elle a fini dernière.
Donc c'était un sport individuel alors.
Oui, c'était l'athlétisme. C'était en athlétisme. Mmh. Et elle courait. Bon, moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué plus que ça. J'ai plus plaint cette femme et tout ce qu'il y avait, la religion derrière. Voilà. Ça ne m'a pas choqué de la voir comme ça.
Parce qu'il y a aussi des sports collectifs. Mais justement, ta position là-dessus, est-ce que on dit c'est la possibilité justement pour cette femme-là de faire du sport? Ou bien on dit non, le sport c'est en short ou en jupe et puis c'est tout, et si elle n'est pas contente, elle ne fait pas de sport.
Non, mais c'est pas là, moi je partage. Donc,
ma position, déjà j'ai un avis personnel, mais en tant que représentant peut-être un jour déjà d'un certain nombre de fédérations aujourd'hui, mais peut-être du comité olympique demain, ce qui me paraît important c'est d'appliquer le droit. Parce que chacun peut avoir une sensibilité particulière, mais ce qui me paraît important c'est d'appliquer le droit. Parce que c'est le garant pour tout le monde d'une égalité. On a eu la gentillesse de le dire, j'ai des fonctions dans une structure pour personnes handicapées. La question du halal, du kasher, dans l'alimentation, s'est posée. Mais la liberté de chacun de pouvoir s'alimenter comme il le souhaite, en intégrant ou non sa religion, c'est un choix personnel. Qui je suis, à titre personnel, pour imposer ma vue personnelle? Moi, je souhaite qu'on applique le droit. Il est bien fait, il est apaisant. Voilà.
C'est une bonne réponse.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui, malheureusement, va continuer à évoluer. Alors, est-ce que, justement, le comité national a pris ce dossier à bras-le-corps, ou pour l'instant, il n'en parle pas trop, on essaie d'éluder la problématique?
Non, je pense que ce n'est pas dans des moments d'émotion qu'il faut aborder des sujets qui peuvent être glissants. Et qu'à la fois, la République, la laïcité, c'est des sujets qu'il faut aborder tout le temps. Mais aujourd'hui, il faut se approprier. Je vous le dis, j'ai suivi la formation. Je le dis, j'avais une vision fausse de la laïcité. Moi, j'étais plutôt un laïcard, disant qu'au principe de la laïcité, je ne voulais pas entendre parler des religions. De dire que pour moi, c'était le champ de l'intime. Mais c'est ma position, mais la position du droit, elle est tout autre. Elle dit que, au principe de la laïcité, j'accepte toutes les religions. C'est une nuance qui change tout. Donc il faut, on nous a vendu beaucoup de principes, suivant sa culture personnelle et sa famille, et je pense qu'il faut réexpliquer le droit. Qu'est-ce qui permet à une association de régler tout un tas de situations dans son fonctionnement pour apporter de l'apaisement?
Alors, on va continuer justement à développer par rapport à ton discours. Il y a un autre mot qui m'a interpellé. Tu parlais de l'éthique. L'éthique, le fair play. Est-ce que à ce niveau-là aussi, il y a des choses à faire?
Il y a malheureusement toujours des choses à faire. Parce que quand on a travaillé sur une génération, il y a une nouvelle génération. Donc, c'est des sujets qu'on n'aura jamais épuisés. Et même si on y a déjà beaucoup travaillé, ben, je crois que chacun peut voir que ce n'est pas le moment de s'arrêter. Hein, et qu'il faut rappeler que la recherche de la performance à outrance, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une bonne attitude avec ses adversaires, avec ses coéquipiers, avec le corps arbitral, avec les spectateurs. Voilà, donc la question de la bonne attitude, je pense, au profond de moi, que le sport, ce n'est pas simplement le reflet de la société. C'est un endroit où on doit être meilleur. C'est l'excellence du geste et c'est l'excellence de l'attitude.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on a toutes les tranches de la société. On a ce qui est bien dans la société, on le retrouve dans le sport. Ce qui est mal dans la société, malheureusement, on le retrouve dans le sport. C'est un peu aussi le miroir de la société. C'est pas évident, justement, d'avoir l'excellence quand à côté, je sais pas.
Si c'était facile,
oui, ça serait.
Je sais que je vais gérer beaucoup de problèmes dans l'éventualité que on m'élise. Je ne cherche pas la facilité. J'ai, je crois, l'énergie pour 4 ans pour essayer avec courage, mais aussi dans la durée. Parce que faire juste un coup pour faire du beau dans un article de presse, c'est très bien, mais il va falloir durer. Et s'il faut être intransigeant, il y a un certain nombre de sujets notamment l'éthique et le fair play, ou lequel je serais intransigeant.
Alors, comme on parlait tout à l'heure, c'est le CNOSF qui justement qui vous donne les grands axes de travail, hein, donc on va dire entre guillemets les thèmes. Et c'est vrai que les principaux thèmes qu'ils ont relevés, il y a la santé, l'éducation et la citoyenneté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la laïcité, peut-être ?
Absolument.
La professionnalisation. Qu'est-ce qu'on fait, justement ? Est-ce que ça va permettre d'améliorer et de pousser le sport vers le haut ? Et les politiques publiques. Donc, moi, je vais m'arrêter tout d'abord sur les politiques publiques. Est-ce que le fait, justement, de l'accessibilité, on va dire, oui, ça peut être en lien aussi avec la santé, mais politique publique, l'accessibilité aux équipements sportifs, c'est un énorme problème à l'heure actuelle. Il y a des lois qui sont sorties, qui ne sont pas appliquées, pas parce que les villes ne veulent pas le faire, c'est parce que ça coûte de l'argent. Donc, comment on peut faire justement pour essayer d'aider les élus locaux à pouvoir donner cette accessibilité dans le cadre de ces politiques publiques ?
Le monde du sport aujourd'hui est crispé parce qu'on vit une révolution qu'ont vécu d'autres domaines avant nous, je pense au médico-social, mais on a vécu 30-40 ans dans un mode de subvention. Ce mode de subvention va s'arrêter. On est maintenant sur des appels à projets. C'est le financeur public, qu'il soit commune, département ou État, qui dit « voilà, moi je veux financer le sport santé, je veux financer tel projet, quelles sont les associations qui veulent aller dedans ?» On n'est pas obligé d'y aller. Mais en tout cas, aujourd'hui, le financeur public, il a des priorités, il a ses axes, et il faudra répondre à ça ou ne pas y répondre. Ce qui crée des crispations pour ceux qui pensent faire « mais moi, je veux faire du sport », et c'est tout à fait louable. Mais aujourd'hui, la puissance publique, elle a sa vision, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais elle est légitime, ils ont l'autorité pour faire ça. Et que je crois que ma responsabilité, ça sera encore d'apporter de la clarté dans tout ça, et de dire « oui, si vous voulez un certain nombre de fonds, vous pouvez répondre à ces appels à projets, mais il faudra faire les actions. » Trop souvent, on était financé, on ne savait pas forcément à quoi servait l'argent. Ça servait au sport, mais on ne peut pas dire on finance les enfants et puis que ça finance l'équipe première.
Mais donc, il faut mettre en place des systèmes de contrôle ?
Alors, les contrôles, ça, c'est l'État qui les fait. Moi, je suis sur la partie plus éducative, et aussi de faire monter en compréhension et en compétence. Parce que quand on parle de l'onglet sport et professionnalisation, on ne parle pas du sport professionnel. On parle de monter en compétence tant sur l'encadrement que sur la gouvernance des associations avec l'ensemble des formations que nous faisons déjà, mais où il faut qu'on monte encore en compétence. Quand aujourd'hui une association, on va dans des champs sur la santé, quand on va sur des champs sociaux, ben c'est des nouvelles activités pour le club qu'il faut appréhender différemment.
Et comment, justement, toi, tu vois l'implication du CDOS dans cette professionnalisation ?
Je pense que nous, on doit être vraiment en amont, auprès des comités départementaux, pour recueillir quand même leurs doléances, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Certains règlent leurs questions en interne, mais qu'on puisse proposer un certain nombre de solutions à l'ensemble de ces comités.
Alors, il y a un point aussi qui commence maintenant à faire son petit bonhomme de chemin parce que bah, c'est la réalité, c'est la santé. Est-ce que justement tu as des axes définis justement par rapport au sport et la santé ? Parce que c'est vrai que maintenant tu regardes bah, la télé, on parle du sport santé, on va dans une association, bah, il y a une section santé également. Au niveau du CDO justement, par rapport à ton projet, ton grand axe, t'as quelle vision justement de
le projet aujourd'hui est en train d'être co-construit avec les comités. Donc je peux pas répondre sur le projet futur si nous sommes aux responsabilités.
Ou le grand.
Je
les
peux dire
axes.
Quand même moi ce que j'essaie d'impulser dans le projet sur la question de la santé. Encore une fois, faut apporter de la clarté et de repositionner chacun à sa juste place. Il y a énormément de diplômes différents dans l'encadrement du sport en France. Il y a des diplômes qu'on passe en une semaine. Il y a des diplômes Bac plus 5. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on n'a pas la même technicité à sa disposition quand on a fait 5 ans d'études après le bac et quand on a eu une semaine de formation. Chaque encadrement doit être positionné là où il est le plus efficace. Et notamment sur la question de la santé, sur des, notamment des personnes touchées par des maladies chroniques, il faut qu'on mette les gens les plus performants, les plus formés, parce que ce rendez-vous, il ne faut surtout pas le rater. Ça fait des décennies qu'on dit que le sport, c'est bon pour la santé. 10 euros investis, c'est 100 ou 1000 euros économisés par la Sécurité sociale. On est tous d'accord. Aujourd'hui, la loi Fourneyron est là. Les médecins peuvent prescrire de l'activité sportive, notamment sur Carpentras. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on rate et que ce soit vraiment les encadrants les plus adaptés qui puissent encadrer. Après, je pense qu'il faut faire la distinction entre le bien-être et la santé. Là, aujourd'hui, on est sur un dispositif vraiment de prévention des maladies cardiovasculaires. Ça, on est vraiment sur de la santé. Après, quelqu'un qui était un peu sédentaire, qui doit reprendre de l'activité, je pense qu'il faut davantage qu'on parle dans l'avenir de bien-être.
Et est-ce que vous avez travaillé justement avec les médecins du Comtat, par exemple, du Comtat Venaissin, pour justement à ce que ces derniers vous envoient les patients?
Alors, sur le dispositif qui existe sur Carpentras, il y a eu une première année de lancement exclusivement avec les médecins de la maison régionale pour rester sur un modèle parce qu'il a fallu tout inventer. Depuis septembre, l'ensemble des médecins du territoire du Comtat peuvent prescrire. Hein, donc on n'est pas sur de l'ordonnance parce qu'il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Mais en tout cas, il y a un document médico-sportif, le médecin le remplit et on oriente vers l'office municipal des sports de la ville de Carpentras qui est en capacité aujourd'hui de proposer 8 créneaux sur la semaine. On dépasse 150-200 personnes qui vont pouvoir être...
C'est pour ça que je voulais mettre un petit point, parce que je savais que justement...
Carpentras est particulièrement dynamique sur cette question-là.
Donc comme on l'entend, malheureusement l'émission se termine, hein, c'est vraiment passionnant de parler avec toi Roland, mais bon, tout a une fin, et cette fin, je voulais te laisser le mot de la fin, hein, parce que tu te présentes aux élections, 4 mars prochain, est-ce que tu as un petit mot de conclusion ?
Voilà, ma démarche, elle était surtout d'information, de dire que, voilà, comme je le dis, j'ai un positionnement, j'ai été athlète, j'ai été entraîneur, je suis aujourd'hui dirigeant, donc ça me paraît normal dans le cursus à un moment donné. Il y a quelque chose qu'on m'a inculqué et qui me revient souvent, c'est aujourd'hui on t'aide, mais demain ça sera à toi de rendre un peu au sport et à la vie ce qu'on t'a donné. Pour essayer d'être le meilleur des athlètes, il faut être un peu égoïste. Faut penser beaucoup à soi, mais on a réussi à m'inculquer cette valeur et je crois que une nouvelle fois c'est venu pour moi de rendre au sport tout ce qu'il m'a donné.
C'est un très très beau mot de la fin. Merci beaucoup Roland Daveau, futur, on espère, président Duc d'Os 84. Merci Valérie.
Bonsoir.
Merci Bruno qui a animé cette soirée.
C'était avec plaisir.
À la technique. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sportive à tous.
Put your love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me.